Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Un nouveau chèque en bois, enfin pas en bois, un nouveau chèque pour ceux qui se chauffent au bois. Il est de 50 à 200 euros et il faut que vous allez voir, les niveaux de revenus pour y avoir accès sont un peu plus élevés que d'habitude pour une personne seule. C'est 1,7 SMIC, mais au-delà de cette nouvelle aide publique contre l'évolution de la facture d'énergie, il y a une question de fond là qui est soulevée par Gabriel Attal. Il veut vraiment parler à la France laborieuse. Il veut parler à cette France qui a le sentiment de bosser, qui a le sentiment de payer pour ceux qui ne bossent pas, qui sont régulièrement énervés lorsqu'ils voient qu'on sort des nouveaux chèques et qu'eux, ils sont pile un peu au-dessus des plafonds de revenus et que du coup, ils n'ont pas tout simplement accès à cette nouvelle aide sans être pour autant des gens fortunés et qui finissent forcément sans difficulté tous les mois. Voilà, c'est toujours l'histoire de cet État qui donne la béquée et qui fait du pouvoir d'achat un acquis social. L'inquiétude commence à pointer en Europe sur le risque d'une boucle prix-salaire et même jusque dans les rangs de la BCE. Pour l'instant, ce n'est pas un phénomène avéré, mais enfin, effectivement, lorsqu'un phénomène comme celui-là se produit, c'est là où l'inflation peut devenir totalement incontrôlable. On évoquera les 27, les pays de l'Union européenne qui sont très fermement décidés cette fois-ci à résister aux mesures, on va pas dire anti-inflation, mais aux mesures protectionnistes mises en place par les Américains. Et puis les Américains ne s'embarrassent de rien. Ils viennent officiellement d'interdire les équipements télécoms chinois sur le sol des États-Unis. On se demandera aussi pourquoi les bourses résistent si bien. La conjoncture est quand même pas réjouissante et le risque de récession, il existe. Et puis en tout cas, cette déclaration de Bruno Le Maire qui reconnaît sans doute qu'il y a des abus sur les recours par l'État au cabinet de conseil. Erwan Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être là. Première participation à cette émission. Je m'en réjouis. Vous êtes partenaire d'Altermind et vous êtes chroniqueur à l'Opinion. Pierre-Henri de Menton, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge. L'affaire EDF, comment passer l'hiver ? C'est à la une de Challenge. Et Erwan Tison, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Il est directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous avez coécrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez Emma Édition. Prochaine note de l'Institut Sapiens ?
Sur la retraite, et on explique comment est-ce qu'on peut profiter du creux générationnel qui arrive en 2028 pour instaurer un pilier capitalisation qui soit totalement indolore pour les entreprises, les finances publiques et les ménages, et qui permettrait dès 2042 de pouvoir compenser une partie de la baisse annoncée par le corps des pensions de retraite pour tous les retraités.
Alors justement, moi j'ai toujours des gens qui réagissent à ça en disant c'est très beau la capitalisation, enfin le jour où le marché s'écroule, comment on fait ? Parce qu'on est très énervé quand les dividendes sont très importants, mais on sera très très malheureux si tout d'un coup l'ensemble des pensions est englouti, vous voyez ce que je veux dire ?
On peut demander aux pharmaciens et aux fonctionnaires qui aujourd'hui sont les deux seules professions qui ont des régimes par capitalisation et qui ont fait par exemple en 2020, année de la pire récession qu'on ait connue ces 60 dernières années, plus de 9 à 10% de rentabilité sur la retraite.
Je sais. Bon. Un nouveau chèque pour soutenir le pouvoir d'achat. Il est inscrit dans un ultime paquet pouvoir d'achat de 2,5 milliards d'euros qui s'est greffé au budget rectificatif 2022. Tout ça a été voté 149-3 vendredi. Et donc, il y aura 50 à 200 euros versés sous condition de revenus. 2260 euros par mois maximum pour une personne seule. C'est 1,7 SMIC. 4750 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Il faudra en faire la demande de ce chèque à compter du 22 décembre. Sur chèqueénergie.gouv.fr. Déjà, le fait qu'il y ait un site dédié, ça veut quand même tout dire. Vous mettez votre numéro de télédéclaration et vous mettez vos factures de bois. Alors, je n'ai pas le nombre de ménages bénéficiaires, mais on voit qu'on est en train de remonter un petit peu les niveaux de revenus, justement, pour essayer de toucher un maximum de monde. Vous avez vu qu'il y a une rallonge sur le chèque énergie qui va de 100 à 200 euros et la partie rallonge exceptionnelle sera versée à beaucoup plus de ménages que ceux qui habituellement touchent le chèque énergie. Normalement, on est proche des 6 millions de bénéficiaires pour le chèque énergie. Eh bien, la rallonge, c'est pour 12 millions de foyers. Parce qu'il se passe quelque chose. Chaque fois qu'on verse quelque chose, chaque fois qu'on verse une aide au plus modeste, celui qui est juste un petit peu au-dessus du plus modeste, eh bien, ça l'énerve. Ça l'énerve parce que lui, il travaille. Il se lève tôt le matin, comme dit Gabriel Attal dans différentes interviews, notamment à BFM TV qu'il a accordé cette semaine. C'est la France laborieuse. Elle sait qu'elle bosse, elle sait qu'elle paye de l'impôt sur le revenu notamment. Et elle a le sentiment qu'elle paye toujours pour ceux qui ne font rien. C'est exactement comme ça qu'il le dit. On lui prête une phrase qu'il n'a pas démentie, mais qu'il n'a pas commentée non plus. Les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public, Pierre-Henri de Menton, pour aider ceux qui ne bossent pas. La dernière fois que j'avais fait une chronique sur une aide du gouvernement sur BFM TV, j'avais eu un tombereau de réactions exactement semblable à ça, à tel point que, souvenez-vous, j'avais ouvert cette émission en faisant une litanie de réactions sur Twitter que j'avais lu en intégralité. Et là, on est sur quelque chose de lourd.
Voilà, alors en fait, c'est un week-end plutôt économe. Hein, on a balancé que 230 millions d'aides publiques ce week-end.
2 milliards et demi quand même. Hein,
oui, oui, total, mais d'habitude, vous savez que chaque week-end, il y a un ministre qui arrive avec son aide. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le fait que le seuil, là, soit un peu plus élevé. Hein, donc, ça touche les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures. Hein, on est à 2600 et quelques, ce qui est bien au-dessus même du salaire médian. Et l'autre chose, c'est effectivement le discours qui entoure ça, qui est un discours qui est un discours de droite, hein, contre la citana, etc. Donc il y a une prise de conscience peut-être un peu tardive, mais de quelque chose qui traîne. Vous savez, Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis, a publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Ouvrez les yeux sur les classes moyennes », qui est fait d'après des études qui ont été faites par Publicis sur les classes moyennes depuis 2007. Et on voit cette exaspération qui monte, et qui effectivement, en grande partie, qui était celle des gilets jaunes.
Exactement.
Donc, il y a une prise de conscience, mais il y a toujours ce fond. On est contre l'assistanat, mais on balance quand même. Sans parler des objectifs climat, parce que je vous rappelle quand même que brûler du bois, ça émet du CO2. Donc, oui, j'attends maintenant les écolos sur le sujet.
Brûler du fioul aussi, parce qu'il y a le chèque fioul de 200 euros, hein, qui est cumulable avec le chèque énergie, et le versement a commencé au mois de novembre. Sans compter le bouclier tarifaire ou même la ristourne carburant qui existe encore. Aaron Tison, ça vous inspire quoi ce risque social là? Là, il y a un risque social.
Alors, premièrement, je pense qu'il faut il faudrait effectivement faire appel à des cabinets de conseil pour savoir un peu tous les chèques qui existent. Voilà, pour faire le lien avec un autre sujet.
Oh, le gros mot.
Parce que j'avoue que j'essaye de suivre ces sujets-là, j'ai épluché le PLF, mais là, je serais incapable de vous dire le nombre de chèques qui existent aujourd'hui.
J'ai essayé de faire la liste. Et moi qui scrute ça, je me suis dit, mais comment les gens s'y retrouvent? Parce que là, le chèque énergie, plus le chèque énergie exceptionnel, enfin, objectivement, pour s'y retrouver, c'est quand même balèze.
Et en plus, il y a des chèques annoncés qui n'ont pas été faits, les chèques panier, les chèques fruits et légumes, etc. Il y a plein de chèques qui ont été annoncés, qui n'ont pas été réalisés. Moi, je pense que ça pose vraiment une question qui est beaucoup plus fondamentale que ça dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un choc inflationniste, on va dire moyen, modéré, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs années, on est incapable aujourd'hui de vivre de son propre salaire. Et ça devait être le cœur même de justement notre réflexion. Pourquoi est-ce qu'on augmente les seuils aujourd'hui? Les seuils, quelque part, c'est un petit peu l'histoire de la tragédie économique française. Quand on vous regarde, et c'est pas étonnant d'ailleurs que les publics que vous citez soient obligés d'être ciblés par des aides spécifiques. Aujourd'hui, la classe moyenne française, il faut savoir que depuis 15 ans, c'est celle qui a connu la plus faible augmentation de son salaire moyen. Quand vous regardez un petit chiffre, depuis la mise en place des effets Fillon, vous savez, on est en 2003-2004, et donc du coup, l'idée, c'était de dire... Je vais faire en sorte qu'il y ait des aides, la diminution des aides, des cotisations sociales jusqu'à 1,6 SMIC. Quand on regarde l'histoire qu'il y a eu derrière, c'est qu'il y a eu une formidable augmentation du salaire médian jusqu'à 1,6 SMIC, mais depuis on stagne à 1,6 SMIC.
Logique.
Et ce qui s'est passé, c'est que du coup on a créé un énorme effet de seuil qui fait que à ces alentours-là, augmenter de 100 euros votre salarié, ça vous coûte 280 euros en moyenne. Et donc du coup, ce qui fait qu'on a paupérisé la population française en la stagnant autour de ce niveau-là. Résultat, en 15 ans, l'augmentation des personnes du premier et deuxième décile, donc en gros ceux qui sont au SMIC, et l'augmentation de ceux qui sont 8e et 9e décile, donc en gros les plus riches de ce pays, ont connu une augmentation de leur salaire deux fois plus importante que les personnes qui sont au salaire médian. Donc cette classe moyenne justement sur lesquelles on a concentré leurs revenus autour de 160% du SMIC n'ont pas vu leur salaire augmenter. Et donc malheureusement, tout augmentant, la part justement des dépenses non pilotables augmentant aussi avec le temps, ça l'INSEE l'a suffisamment renseigné, et bien du coup ces personnes-là n'ont plus du tout de budget arbitrable. Et donc du coup, si vous n'avez plus de budget arbitrable, non seulement vous ne pouvez plus épargner, dernier. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un bouclier temporel pour justement faire en sorte que la plupart de vos augmentations à venir soient épongées. Et d'autre part, vous ne pouvez plus justement vous permettre de subir un choc inflationniste comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc du coup, malheureusement, le rafistolage qu'est en train de faire le gouvernement, qui pour moi est un énorme aveu de faiblesse, parce qu'on est en train de, décoper ou de mettre du sparadrap vraiment sur le navire qui coule, on devrait plutôt se poser la question de changer de navire plutôt que justement d'essayer de colmater quelque chose qui ne va pas. Ça demande quoi ? Ça demande de remettre en place une échelle mobile des salaires, pourquoi pas, mais en tout cas une échelle de cotisation mobile sur tous les salaires. Ça demande aussi peut-être de se poser la question de faire des transferts, comme le font par exemple les pays nordiques, des cotisations vers l'impôt sur le revenu pour le financement par exemple de la protection sociale. En France, on est un des pays en Europe où la part d'impôt sur le revenu est la plus basse dans le PIB, mais là où les cotisations sociales sont les plus hautes. Par contre, on est peut-être le pays d'Europe où on plastronne le plus, où on affirme le plus que le travail doit payer. Mais on est celui qui taxe le plus le travail. Et troisièmement, peut-être aussi un transfert générationnel à opérer entre potentiellement les retraités qui, je le rappelle, ont non seulement un pouvoir d'achat ou en tout cas un niveau de vie qui est 5% supérieur à celui des actifs, mais qui en plus, eux, ont été les seuls qui ont connu une augmentation, une indexation de leurs revenus sur l'inflation, quelque chose qui a quand même coûté 15 milliards d'euros aux actifs que nous sommes. Donc il y a peut-être des choses à faire, effectivement, plutôt que de faire des petits chèques à droite à gauche qui nous coûtent une fortune et qui en plus créent un besoin qui, après, une fois qu'on arrête le chèque, générera mécaniquement une frustration. Oui. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement remettre à plat notre matrice fiscale, notamment sur le travail, et mettre à contribution ceux qui peuvent payer. Entendez par là les retraités et pas les plus riches.
Vous allez vous faire des copains. Ils vont nous envoyer des petits mots avant la fin de l'émission. Par rapport à tout ce qui a été dit, Erwan Lenoran, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
Mais moi, je trouve que c'est très illustratif du blocage et des limites du modèle social français, en fait. On voit à quel point il est à bout. Au sens où on a d'un côté de l'État qui donne et de l'autre côté des gens qui bénéficient. Les gens qui financent d'un côté sont relativement légitimes à dire on en a marre de donner. On est le pays qui redistribue le plus de l'OCDE. Et ceux qui touchent, une fois qu'ils ont touché, seront assez légitimes à dire maintenant, nous, on ne veut pas perdre notre aide. Parce que si on perd, par ailleurs, comme on n'a pas nécessairement de perspective sociale par ailleurs, c'est une perte nette et pas de perspective vers la suite. Donc on a l'illustration même d'un système qui, parce qu'il prétend lutter contre les inégalités, produit de l'injustice, et un système qui, parce qu'il prétend faire de l'unité sociale, conduit à la division sociale. C'est-à-dire un échec sur tout le système. C'est économiquement inefficace et c'est socialement en train de faire croître une tension toujours plus forte dans la société.
C'est gay, hein, Pierre-Henri, notre histoire, là. Non, parce que le sujet structurel qui est décrit, c'est vraiment ça. Et en attendant, maintenant, on a branché les perfs, là, et les montants sont importants. Encore une rallonge de 2,5 milliards d'euros, comme ça, glissés dans une loi de finances rectificative pour 2022.
C'est le budget d'INSERM.
Et là, c'est sûr que ça a été voté, hein. Il n'y a pas besoin d'un 49-3 pour y arriver.
Ils vont éviter aussi de faire la comédie du 49-3 à tous les coups, parce qu'il y a un moment, vous savez, c'est à force de s'en servir, plus personne ne s'en rend compte, quoi. C'est toujours la même histoire. Également dans l'actualité, alors ça n'a absolument rien à voir, je ne l'avais pas mis dans les sujets du jour, mais Pierre-Henri me dit en arrivant, mais il faut quand même qu'on dise un mot de la Chine. Il faut reconnaître que ce qui se passe en Chine, c'est à la une des Échos ce matin. L'incroyable colère contre les effets du zéro Covid, jusqu'à avoir entendu dans certaines rues chinoises, Xi Jinping dégage. On peut dire ça à place de la République contre Emmanuel Macron, on ne risque rien. Quand on s'amuse à crier ça dans les rues en Chine, ce n'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ce sujet, Pierre-Henri de Menton ?
Non, moi j'étais très impressionné par ces images. C'est le mouvement A4, hein. Vous savez, on brandit des feuilles blanches, synonyme de censure. Le hashtag A4 a été supprimé dans la nuit. Tout s'est refermé, hein. Effectivement, là, il n'y a plus d'images. Alors, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon, on va dire... J'étais très frappé ce matin par l'ouverture de Hong Kong en nette baisse et Tokyo...
La bourse, hein.
Ah ouais, et Tokyo plus mitigé. La première, c'est de se dire que, et ça a déjà commencé, que le pouvoir central va devoir rouvrir le pays. Sinon, donc il y a cette pression qui vient de partout, hein, qui est à la fois économique. Je rappelle que les chiffres économiques sont quand même très très mauvais. C'est la fin du deal... Genre, je t'enrichis, mais tu te tais, c'est en train d'exploser. Donc, est-ce qu'ils vont avoir le choix ? Est-ce qu'ils ne ils vont pas devoir ouvrir ? Ça, c'est le côté, on va dire, optimiste, si on se place du côté des échanges internationaux et de l'économie mondiale. Le côté pessimiste, c'est effectivement que le pays est beaucoup plus fragile qu'on l'imagine. On a une espèce de, j'ai l'impression, de sentiment d'infériorité en Europe occidentale, en disant les démocraties sont mal armées, etc. Et en fait, je pense que les systèmes autocratiques sont mal armés face à ça. On le voit en Iran, on le voit en Chine, on va le voir, je pense, en Russie, hein, on l'a vu au début, mais je pense qu'il va forcément se passer quelque chose. Et là, effectivement, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant, hein, si on se met d'un côté un peu cynique, parce qu'on ne sait pas où on va aller, quel type de... S'il n'y a plus Xi Jinping, qui sait, s'il n'y a plus Poutine, qui sait, si ce n'est pas les mollahs, est-ce qu'on sera beaucoup mieux avec des gardiens de la révolution ? Donc là, on a l'impression, avec ces deux affaires en Iran et en Chine, qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer.
Sur un autre terrain, hein, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la Chine, mais sur un autre terrain, il sera intéressant de voir comment on va évoluer. Alors là, c'est pas du tout, c'est une démocratie pour le coup, mais la situation de la Grande-Bretagne. Parce que alors là, ce qui remonte comme information sur l'état de grogne sociale, de crise sociale chez les Britanniques, enfin, c'est vraiment Ken Loach est de retour en Grande-Bretagne. Ça prend une dimension, une ampleur absolument incroyable. Est-ce que vous avez peur de la boucle prix-salaire, Pierre-Henri de Menton ? Parce qu'on a vu que même jusque dans les rangs de la BCE, Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, commence à se demander si cette boucle prix-salaire qui ne s'est pas engagée, mais qui est le moment déclencheur où là on peut vraiment parler d'inflation et où on risque une inflation qui s'emballe, est-ce que vous pensez que ça peut effectivement
arriver ? Alors
d'abord,
c'est pas tout à fait nouveau parce que Christine Lagarde, on a parlé, hein, de, ça s'appelle l'effet de second rang.
L'effet de second rang.
L'inflation augmente et naturellement, ce qui est tout à fait normal, les salariés demandent des augmentations. Alors il y a des pays où c'est presque indexé, c'est le cas par exemple en Belgique, donc effectivement ça devient très, très inquiétant. En France, c'est pas tout à fait le cas, mais
non, on n'est pas indexé
on revient
France.
À notre sujet du début, il y a une très grande inégalité face à ça. Quand on voit ce qui se passe dans les grands groupes, ce que lâchent en termes d'augmentation des groupes comme L'Oréal par exemple, des groupes qui gagnent, c'est vrai, beaucoup d'argent par rapport à la situation dans l'immense majorité des entreprises, des PME, il y a deux mondes complètement différents. Alors, on avait déjà deux mondes avec le télétravail, hein, on se rappelle, l'école bleue et l'école blanche. Et là, on va avoir les grands et les petits, hein, les grands et aussi les fonctionnaires, parce qu'il y a une forme d'indexation dans le revenu des fonctionnaires. Donc, l'effet de second rang, il est, à mon avis, dangereux économiquement, mais il est aussi dangereux socialement, parce que il y a cette grande bifurcation entre les salariés des grands groupes et les autres, et tous les autres.
Il est vrai que si on regarde aujourd'hui la moyenne des augmentations depuis le début de l'année, on est à plus 3,7%, donc on est bien sûr très nettement en dessous de l'inflation, mais même en dessous de l'inflation qu'on pourrait considérer comme l'inflation dure, la sous-jacente. C'est-à-dire débarrasser des éléments volatiles. Donc, s'il est certain aujourd'hui qu'il y a une baisse du salaire réel dans la mesure où les hausses de salaire sont inférieures à l'inflation, et on voit que les entreprises sont quand même encore toujours dans l'idée qu'il vaut mieux essayer de jouer pour l'instant sur des primes, de jouer sur de l'intéressement, de la participation, pour éviter de figer dans le temps des augmentations qui deviendraient très dures à supporter dès l'instant où l'inflation aurait particulièrement reculé. Est-ce que la boucle prix-salaire vous fait réagir davantage pour sans plus ? Je passe au sujet suivant. Les Européens face au... Erwan Lenoir, vous appelez ça une loi anti-inflation aux États-Unis ou un pur texte bien protectionniste à l'ancienne ?
Un peu des deux, mais non, mais je pense que c'est un texte protectionniste qui utilise le sujet de l'inflation comme
prétexte.
Qui montre aussi, à mon avis, une certaine continuité dans la politique américaine. Donc tout le monde a hurlé quand Trump faisait du protectionnisme, quand Trump tapait sur les Européens, quand Trump faisait de l'Américain pour l'Américain. Et on se rend compte qu'avec Biden, surprise, c'est la même chose. Mais les Américains sont un pays qui s'oriente sur ses politiques, sur ses propres intérêts. Et on voit là que la continuité entre les deux, d'un mandat à l'autre, et on voit à l'inverse la faiblesse européenne qui ne sait pas se coordonner pour trouver une réponse, ou n'a pas su d'ailleurs par le passé trouver une réponse. Et on a caché cette faiblesse, cette absence d'unité sur la vision de la politique industrielle et économique, comme en s'opposant à Trump. Mais ça va beaucoup. En réalité, la faiblesse est beaucoup plus structurelle. C'est qu'on n'a pas exactement les mêmes structures économiques. On n'a pas les mêmes visions de la politique économique. On n'a pas les mêmes expositions aux exportations aux États-Unis. Et tout ça est en train de se voir aujourd'hui. Les Européens, et d'ailleurs, je trouvais assez ironique d'entendre aujourd'hui la France à la fois se vanter d'avoir augmenté ses exportations et en même temps nous dire qu'il fallait acheter européen. Il y a une certaine contradiction à vouloir à la fois faire d'un côté vanter une forme de protectionnisme, que le European Buy Act, je ne sais pas son titre exact, ça revient à ça, et dans le même temps vouloir absolument être ceux qui exportent le plus. Donc on peut pas à la fois vouloir nous acheter européen et demander aux Américains, aux Chinois, de ne pas faire la même chose, même s'ils le font parce qu'ils sont plus fortement...
Ils le font ouvertement, et ils le font beaucoup plus.
Bien sûr.
Mais donc, il y a un moment, il faut que, si je suis votre pensée, ça veut dire que les 27 ne doivent pas essayer d'apporter une réponse proportionnée à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les Américains ne s'en cachent même pas. L'Inflation Reduction Act, c'est quand même un truc absolument incroyable. Ça exclut pratiquement de facto l'ensemble des voitures qui ne sont pas produites par des constructeurs américains. Là, ils viennent de bloquer officiellement les équipementiers chinois n'ont plus le droit de vendre sur le sol des États-Unis. Et il y a un moment, est-ce qu'il n'y a pas une forme, sans forcément réveiller les pires heures du protectionnisme, il y a un moment, il faut qu'il y ait une forme de réciprocité.
Il faut qu'il y ait une forme de réciprocité, ok, mais on est. Je pense que il y a deux éléments dans la réponse. Je disais ce matin, si j'ai bien compris, que les Européens d'abord discutent avec les Américains. Voilà, il y a a priori aucune chance que ça aboutisse à quoi que ce soit. Et il y a l'hypothèse d'ouvrir une procédure devant l'OMC qui sert à ça, qui mettra des années, etc. Mais qui sert à ça. Il y a le volet ensuite politique européenne, et on revient sur ce que je disais tout de suite. Pourquoi est-ce que ça s'est pas fait avant? Qu'est-ce qui a empêché les Européens de le faire avant? Je pense que ça ne tient pas qu'à des questions de conjoncture, ça tient à des divergences structurelles dans leur vision de politique économique, et aussi parce que, me semble-t-il, dans le cas français, on ne cesse de vanter cet acheter européen, acheter français, cocorico, etc., mais pour pallier les faiblesses de notre compétitivité.
Bon, on marque une pause. Vous me direz dans un instant si vous pensez qu'il faut essayer de se défendre face à ce que nous vivons, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas que. Et on évoquera aussi la résistance des marchés financiers. Il faut reconnaître qu'on a un CAC 40 qui est au-delà de 6600 et quelques. Je ne sais plus exactement à l'heure qu'il est, à combien. Mais enfin, le contexte en phase macroéconomique est quand même pas très réjouissant et visiblement, les marchés s'en moquent un peu.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Erwan Lenoir, il est partenaire d'Altermind, des chroniqueurs à l'opinion. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, avec l'affaire EDF à la une de Challenge. Quand vous mettez l'affaire EDF, vous pensez à quoi?
On pense à cet énorme gâchis.
Ah oui.
Et je pense que c'est une affaire au sens affaire presque crapuleuse, parce que c'est un désastre, un tel désastre qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc on a mis le projecteur et le rétroviseur pour voir un peu comment on en est arrivé là, jusqu'à ne pas savoir comment on va passer. Alors le mois de décembre c'est bon, on nous a expliqué, le mois de janvier on ne sait pas. Donc c'est quand même, pour une grande puissance nucléaire, c'est quand même un peu curieux.
Le nouveau patron... Il y a rien qui va. Rien ne va.
Ah,
et
vrai.
En plus, il hérite des électriciens gaziers qui sont encore toujours un petit peu dans le spectre social. Enfin, c'est sûr que je comprends qu'ils aient eu du mal à trouver un patron pour une boîte pareille avec le salaire capé à 450 000 euros imposé par François Hollande à l'époque de son quinquennat. Il y a des réactions. Hein. Franck m'écrit « Un jour viendra où l'on ne pourra plus faire de chèques. » Et ce sera catastrophique. Plus on fait d'échecs et plus on aggrave la situation. Un gouvernement qui n'est pas capable de trouver des solutions à part arroser avec des chèques doit céder sa place. Le problème, c'est qu'on a toujours fait comme ça. Et cet autre auditeur nous dit « Nous sommes dans un état économique schizophrène. Faites des économies et je vous aide à dépenser. » Il faut reconnaître que parfois, c'est assez vrai. On parlait de la réaction, enfin de la tentative. Pardon, qu'est-ce que vous
dites ? On pourra ajouter un petit point là-dessus. C'est qu'on fait tout pour les consommateurs, mais aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont debout pour elle aussi demander à être aidée, hein. Pas notamment quand on voit ce qui se fait en Espagne, en Allemagne.
Vous diriez que on en fait trop sur la demande et pas assez sur l'offre.
Bah, tout à fait.
Oui. Alors on a fait beaucoup sur l'offre pendant le Covid, hein, quand même. La France était le pays où il y avait vraiment une politique de l'offre. Et bon, c'était peut-être disproportionné aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Que déjà, le chômage partiel, c'est à mi-chemin entre la politique de l'offre et la politique de la demande.
Et les marges des entreprises ne sont pas misérables, loin de là. Hein,
ça dépend lesquelles. Enfin, le problème, c'est qu'il y a une trop grande hétérogénéité entre les secteurs.
Mmh. Ouais. Mmh. Mais là, enfin, on a entendu énormément d'appels au secours de la part de quantité de secteurs d'activité,
bien sûr,
notamment les boulangers, par exemple. Mmh. disant que...
Ah bah là, on revient à nos coupures d'électricité au mois de janvier. Je sais pas comment ça va se passer, parce que fabriquer une boulangerie, il y a que l'électricité partout, hein, dans le four, pour les réfrigérateurs, pour les mettre les éclairs au chocolat, la caisse. Donc vous arrêtez pendant 2 heures.
Mais ce qui est frappant, c'est que tous les chefs d'entreprise qui sont venus ici, avec qui j'ai évoqué, donc évidemment leur facture d'énergie pour 2023, avec des, vous les avez entendus, des chiffres qui donnent le tournis. Quand on leur dit risque de récession, non, le sujet qui les préoccupe, c'est le risque de coupure de courant. Et vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise, que ce soit un industriel, ou je sais que Thibault Langsade, par exemple, aussi, qui a des data centers, il dit, mais si nos data centers s'arrêtent, et là, on ne sait pas comment on fait, et dès la première seconde d'arrêt, c'est de la perte nette pour l'entreprise. Donc en fait, ces risques de coupure de courant inquiètent nettement plus les entreprises, d'ailleurs, que les ménages, qui savent d'ailleurs, dans le plan EcoWatt, avec ses 5 étapes jusqu'à d'éventuels blackouts, qu'ils ne sont pas les premiers concernés par une pénurie de courant si elle devait intervenir. J'ai eu d'autres réactions, je vais les lire avant. Erwan Tison, par rapport à cette potentielle réponse des 27 sur les mesures protectionnistes des Américains, parce que, comme le disait Erwan le nom, l'autre Erwan, pour l'instant, on est sur des postures à se demander un petit peu ce qu'on va faire, si on va trouver une position commune, et puis quels seront les outils de réaction, est-ce que c'est du acheté européen, est-ce que ça va être du bon vieux droit de douane, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, il se passe quelque chose.
Il y a aussi un côté un peu paradoxal, on veut faire la guerre économique à la première puissance mondiale, mais on se pose la question si on n'aura pas des coupures de courant cet hiver. Bon.
Non, mais ça, c'est de l'ironie éditorialisante.
Pour rentrer dans le fond, le problème, c'est que bon, on a encore aujourd'hui un excédent commercial avec les États-Unis. Si c'est pour rentrer dans une guerre du protectionnisme, il faut savoir comment est-ce qu'on peut être armé. Il y a l'économiste argentin qui s'appelle Raoul Prebisch qui a beaucoup écrit sur le côté souveraineté industrielle, dans la souveraineté industrielle et le côté justement autonomie dans le cadre de différents protectionnismes. Comment est-ce que quelqu'un peut arriver à tirer son épingle du jeu, notamment en se basant beaucoup sur la théorie des jeux. Et en fait, on se rend compte, lui, sa finalité, c'est de dire que si jamais il doit y avoir guerre économique, il faut qu'il y ait absolument un avantage comparatif, réel. Et bon, en fait, il faut arriver à choisir sa propre dépendance et avoir une interdépendance claire sur des produits à très forte valeur ajoutée. Voilà ce qu'il disait clairement. Aujourd'hui, si du coup, on veut faire la guerre économique aux États-Unis, qu'est-ce que nous, on peut mettre en avant? Peut-être notre force commerciale, parce qu'au final, on reste un marché très attirant pour les États-Unis, mais à part ça, je vois pas vraiment ce qu'on peut vraiment chercher à vouloir exporter que les Américains ne pourraient pas faire à 5 ou 10 ans. Donc, avant justement de se lancer dans cette guerre-là, il faut savoir si on est armé. Donc, ça pose aussi la question de la politique industrielle qu'on pourrait avoir ici sur notre sol européen, et en tout cas des certains avantages qu'on pourrait avoir. Dans l'état actuel des choses, je pense que c'est un petit peu fou de justement se lancer dans cette guerre protectionniste-là, sachant qu'on n'a aucune arme pour pouvoir opposer justement un
conflit économique. Donc, on laisse faire.
Je dirais pas qu'on laisse faire, mais après, c'est aussi la question de l'escalade. Les États-Unis ont des forces, notamment monétaires, que nous, on n'a absolument pas.
On n'a pas le dollar.
Et puis, il faut savoir aussi, il faut quand même se rappeler que l'Europe est aussi aujourd'hui coincée en tenaille entre deux puissances qui se font la guerre, justement, pour le leadership mondial, qui sont la Chine, concrètement, et les États-Unis. Nous, dans cette force, dans ce conflit-là, on n'a pas encore les coussins d'amortisseurs. On est juste un énorme marché que les gens veulent se partager. Donc, si jamais on n'arrive pas à avoir, justement, ces armes-là et cette défense-là, on court à notre perte. Donc, se lancer dans une guerre protectionniste qui ne fera qu'au final s'escalader, etc., je pense que le pragmatisme, des fois, n'est pas forcément une bonne chose. Et un petit peu d'idéologie libérale ne peut pas faire de mal.
Ouais, je suis d'accord. Entre ce que disent les bouquins, les théories, et puis ce qui se passe dans la réalité, là, je trouve qu'on a une démonstration que... Après, la bonne réponse... ne crève pas forcément les yeux. Pierre-Henri de Menton, oui.
Moi, je suis très frappé de l'usage répété par Erwan du mot guerre, défense, armes. Il y a une guerre, il y a une défense, il y a des armes en Europe, hein, c'est en Ukraine, et c'est les Américains qui payent la facture, hein, 85-90%. Hein, c'est pas... ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qui se passait sous Donald Trump, hein, où on avait replié le parapluie. Donc le parapluie, et même sous Obama, donc le parapluie sous Biden, l'OTAN moribonde d'Emmanuel Macron n'existe plus. Donc l'Europe est complètement arrimée aux États-Unis d'un point de vue... Donc on voit mal l'Europe s'engager dans un conflit commercial avec les États-Unis en ce moment. C'est juste impossible, puisqu'on dépend entièrement d'eux. D'autre part... si on se met sur le terrain de la compétition économique, et on parlait de la politique monétaire, il y a un avantage comparatif quand même en ce moment très important de l'Europe, c'est le niveau de l'euro face au dollar. Les Américains se sont engagés dans une politique de dollar fort qui est bonne pour nos exportateurs. Donc d'où le côté excédentaire de la balance commerciale avec les États-Unis. Donc il faut faire un petit peu, je pense qu'il y a une visite d'État là d'Emmanuel Macron, c'est un privilège rare.
À novembre, début d'État, décembre.
Ouais. Ça a lieu cette semaine. Je pense qu'il faut prendre en compte les deux aspects. Il y a un aspect politique, diplomatique, et un aspect économique. Et si on ne parle que d'un sans évoquer l'autre, il nous manque une clé de compréhension.
Mais c'est vrai que le Sleepy Joe, il n'est pas si sleepy que ça, quand même. Parce que je disais, Erwan Tison, il y a effectivement ce que disent les bouquins, ce que dit l'histoire sur les périodes de protectionnisme. Ça se termine jamais bien, ça se termine toujours avec de l'inflation. Bien que là, il pratique un nouveau protectionnisme, qui était d'ailleurs assez bien décrit par Anne-Sophie Alcy
vendredi. C'est la constante, quand même, de la politique économique américaine. Il y a des petites phases sous Clinton, des petites phases, on va dire, libre-échange, mais sinon, l'opinion publique américaine, elle est protectionniste, et les parlementaires américains.
Mais là, c'est un protectionnisme par la norme verte.
Oui, bien sûr.
C'est un prétexte fantastique
pour eux.
Oui, mais Roy, on peut laisser nos entreprises, nos grandes multinationales européennes, notamment allemandes, décider que finalement c'est là-bas où elles vont s'installer, c'est là-bas où elles vont investir, parce qu'elles vont bénéficier des subventions américaines en étant sur le sol américain, elles vont bénéficier d'une énergie 3 à 4 fois moins chère, et qu'à ce moment-là, on a une nouvelle forme de délocalisation.
Sur le côté énergie, je serais plus nuancé, parce que le coût de l'implantation d'une entreprise de l'Allemagne vers les États-Unis aujourd'hui est encore beaucoup trop fort pour bénéficier de la réduction sur l'énergie. Puis ça reste quand même quelque chose d'assez fluctuant. Il y a 3 ans, c'était beaucoup plus intéressant en Europe que ça pouvait l'être là-bas. Et puis quand on aura vraiment une taxe carbone qui frappe vraiment notamment les émissions de CO2, je pense que le gaz de schiste américain sera beaucoup moins intéressant que le nucléaire européen. Mais ça pose encore la question justement de qu'est-ce qu'on veut aussi sur notre territoire. On n'arrête pas d'avoir des injonctions paradoxales, on n'arrête pas de se battre entre Européens, entre les Espagnols qui disent que le projet de réforme justement du marché de l'énergie est absurde, les Allemands qui veulent surtout pas entendre parler justement de remettre en place la taxation marginale sur le gaz, et les Européens qui les Français victimes de leur, comme le dit très bien la Une de Challenge, victimes de beaucoup d'injonctions paradoxales, ont cassé le seul joyau, l'avantage comparatif qu'on avait chez nous. Bah du coup, il faut peut-être remettre aussi un peu d'ordre. Je dis pas que tout par pure idéologie libérale, il faut dire tout va bien, Madame la Marquise. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que il faut pas non plus rentrer dans une guerre. De toute façon, on sait qu'on va perdre. Alors j'utilise le mot guerre, dans un conflit économique que l'on sait que de toute façon on va perdre, ou dans une controverse. Rappelons-nous justement de la guerre du pneu sous Obama. Hein.
Alors, ça va très très bien, il a fait une guerre contre les pneus chinois.
Exactement, ouais. et on a vu qu'au final tout le monde était perdant derrière, que jusqu'au consommateur.
Et là c'était une vraie guerre classique à coups de droits de douane,
normes. C'est ce qui va se passer, parce que si le droit de douane, c'est ce que quand vous êtes justement dans un conflit protectionniste, c'est quelque part votre dernière arme en dernier ressort.
Oui, c'est ça.
Jamais vous avez pas l'innovation, vous avez des produits à très forte valeur ajoutée. Alors c'est très facile de dire ça sur le plateau de BFM Business, de ma position juste d'observateur, mais si vous avez des produits de très forte valeur ajoutés qui sont essentiels dans la chaîne de valeur américaine, et ben là, dans ces cas-là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu moins vindicatif sur sa politique et sur son ambition normative.
Bon, en tout cas, quand je vous écoute, on a déjà perdu, quoi. Ils ont déjà gagné.
Non, pas du tout, parce que sur les...
Bon, on a prévu quand même une taxe aux frontières en Europe, sur des normes vertes et sociales et sociétales.
Ce qui se passe sur le Chips Act, peut-être qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu là-dessus. On ne sait pas ce qui va se passer, notamment dans le bloc asiatique qui produit aujourd'hui énormément de ces puces-là. Peut-être que nous, on va au final avoir une conjonction de facteurs qui fait qu'on va être le premier producteur de puces à 10 ou 15 ans. J'en sais, ou peut-être qu'on va être les leaders sur la prochaine ressource. Peut-être que le lithium qu'on va extraire dans le Massif Central sera le plus fort gisement qu'on aura au niveau mondial, on ne sait pas. Donc, mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut ne se fermer aucune porte, ne surtout pas se dire c'est bon, on a le droit de douane, quoi qu'il arrive, on va pouvoir gagner là-dessus. Ouais.
Alors, c'était Christian Parizeau qui rappelait quand même que si on veut effectivement tout ce que vous venez de décrire, ça va aussi avec la pollution qui accompagne. Ouais, c'est parce que aller exploiter du lithium dans l'Allier, c'est très bien, mais enfin l'exploitation du lithium, c'est pas super propre. On est bien content de voir arriver le gaz naturel liquéfié des Américains sans avoir les puits d'extraction de gaz de schiste et de pétrole de schiste.
D'autant qu'il est exploité. Là, je vous rappelle que le premier producteur de GNL aux États-Unis, c'est Total Energy. Hein.
Ah bon?
Bah oui, aux États-Unis. Ah oui, tout à fait. Ouais.
on dit, bon, il est quoi, 14 minutes, on va se dire un mot sur le sujet un petit peu plus léger de cette machinée, enfin léger, je sais pas d'ailleurs, mais c'est Bruno Le Maire qui dit, bah oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup recours à des cabinets de conseil, notamment en 2021, où là, la facture annuelle a quand même touché le milliard d'euros, un milliard d'euros pour des études commandées, pas que McKinsey, hein. Je crois que c'est le 18e des cabinets de conseil sur l'ensemble des cabinets de conseil auxquels l'État fait appel, donc il faut pas penser qu'à celui-là, mais en tout cas, voilà, beaucoup de cabinets de conseil. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Henri de Menton, là, le mea culpa, ou en tout cas le gouvernement qui fait amende honorable sur ce sujet après avoir un peu balayé l'histoire au moment de la campagne présidentielle, c'était en train de polluer quand même la tentative de réélection d'Emmanuel Macron, et qu'il a dit, c'est vrai qu'on appuie un peu trop sur le...
Voilà, alors d'abord McKinsey, c'est le coupable parfait, hein, c'est américain, c'est la firme, oui. On avait eu BlackRock avant, on a eu Goldman Sachs, donc c'est impeccable. Les principaux cabinets de conseil, ils sont français quand même, hein, c'est des gens comme Capgemini, etc. Les principales factures, ce qui est bien normal, hein, puisque c'est des systèmes informatiques, de numérisation, etc. À chaque fois, on parlait de la plateforme Bouygues Énergie, ben, y a un cabinet de conseil qui s'occupe de ça, avec des agents de l'État, mais il est certain qu'il faut un renfort pour monter ce genre de chantier.
Quelquefois, on est allé un peu loin.
Qui marche pas toujours bien, hein. D'ailleurs, il y a des grandes catastrophes qui se passent. Donc voilà, après, la déclaration de Bruno Le Maire, pour moi, elle est 100% politique. 100% politique. C'est un animal politique. Donc ça lui permet de faire un petit pas de côté, de contrer des coups qui pourraient venir, parce que j'imagine que Bercy n'est pas le dernier à faire recours à des cabinets de conseil.
Il indique que justement, ils ont baissé de 3% leur commande.
Donc voilà, il faut le lire, je crois, avec des lunettes de politique politicienne. Chacun joue sa partition. Darmanin est en ce moment le très bon élève. Lui, il prend un petit pas de côté. Voilà, Gabriel Attal, vous l'avez vu aussi, se positionne sur Paris, sur les classes moyennes. Donc, c'est toutes les écuries qui sont en train de se mettre en place. Et c'est un sujet qui, effectivement, est bien repris par les médias, les réseaux sociaux. Donc, pourquoi se priver ?
Mais enfin, c'est vrai que, enfin, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, l'un des deux Erwan, 1 milliard en 2021 de recours à des cabinets de conseil, peut-être que souvent, les ministères ont cédé à la facilité quand même, hein.
On a eu ce débat mille fois, mais juste un chiffre. Je crois que c'est les trois quarts de dépenses, justement, de ces cabinets de conseil-là, c'est des services informatiques directs.
Alors, pour beaucoup, c'est vrai, oui, ce sont des numérisations.
Et McKinsey représente 1% de la commande.
Oui, mais...
Après, je pense qu'il y a certaines choses que l'administration en crise, comme on était dans cette année-là du milliard, on était quand même... je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait au point pour mettre en place en quelques semaines, quelques jours, une stratégie, et qu'on a parfois besoin de conseils extérieurs. Donc c'est pas tout à fait... L'année, elle est, me paraît pas non plus complètement neutre, où on a une situation de crise intense, que les administrations centrales ne sont pas forcément habituées à gérer.
Oui. Vous vouliez rajouter un peu.
Juste deux mots. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces grands cabinets anglo-saxons et autres, ils sont beaucoup plus rétifs à travailler avec l'État. Donc, en tout cas, beaucoup plus prudents. Donc, il y a peut-être une perte de compétences pour l'État, ce qui se faisait appel à, au-delà des éventuels excès, je pense qu'ils étaient marginaux. Si l'État fait appel à des cabinets de conseil, c'est qu'il en a besoin, notamment parce qu'il y a une souplesse dans l'action. Qu'embaucher une équipe de consultants pour 3 mois, c'est pas la même chose qu'embaucher ou former des hauts fonctionnaires qui soient capables de faire les mêmes missions. Et puis il y a deux questions qui se posent, c'est la procédure de passation des contrats, là il y a de la mise en concurrence, et après il y a ce qu'on fait ou pas de l'externalisation. Après tout, il n'y a pas la moindre raison que tous ces sujets-là soient traités dans l'État, par des fonctionnaires, de manière permanente. Au fond, on devrait au contraire avoir une logique de démultiplication des appels au cabinet de conseil. Et pour Bruno Le Maire, évidemment, comme le disait Pierre-Henri à un instant, la perspective, c'est les uns et les autres au sein du gouvernement commencent à se préparer à 2027, et donc on sait qu'il y a des sujets à évacuer, il y a d'autres sujets à faire monter, et ça en fait sûrement partie.
Ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas beaucoup entendu l'opposition sur le sujet, parce que c'est des pratiques qui remontent à très longtemps, hein, l'utilisation des cabinets de conseil. Et d'autre part, les collectivités locales y ont beaucoup recours aussi. Hein, donc voilà, si on commence à soulever le capot non seulement de l'État, mais aussi des métropoles, des conseils régionaux, départementaux, etc., ça risque d'être un peu compliqué. Donc d'où quand même une certaine prudence, on va dire, de l'opposition sur le sujet.
J'ai un auditeur qui m'écrit, quand l'Élysée dépense 1 milliard d'euros, enfin l'Élysée, gouvernement, cabinet de conseil en 2021, quelle crédibilité pour nous dire de fermer la lumière en sortant. Les cabinets de conseil, bon, principalement ce qui se passe derrière, c'est quand même le fait qu'il y ait des enquêtes qui ont été ouvertes pour savoir le rôle, cette fois-ci vraiment du cabinet McKinsey, le rôle qu'il a pu jouer de près ou de loin au moment des campagnes présidentielles. On verra ce que la justice indiquera à l'arrivée. J'ai pas lu la chronique Erwan Le Nant aujourd'hui, parce que vous veniez, je me suis dit, tiens, ben, comme il est là, je vais lui demander de nous raconter ce qu'il veut dire. On vous lit régulièrement dans l'opinion, et aujourd'hui, vous signez une chronique, elle est en page 6 du quotidien. Pourquoi diable y a-t-il des riches, point d'interrogation? Quel est le message que voulez-vous nous dire?
Oui, tous les lundis dans l'opinion, aujourd'hui, deux messages. Le premier, c'est un, parce qu'on ne cesse d'entendre régulièrement, je ne sais pas qu'était la semaine dernière, encore des dénonciations des riches qui s'en mettent plein les poches, etc. Le premier point, c'est rappeler ce que tout le monde sait ici, la France, c'est l'un des pays les plus égalitaires de tout le CDE, si ce n'est le plus égalitaire avec le plus haut taux de redistribution. Deux, qui sont les riches aujourd'hui au XXIe siècle? Et en fait, ce que montrent les un certain nombre d'études et d'éléments, c'est que ce ne sont pas du tout des rentiers comme on l'entend, les ultra-riches. Les ultra-riches sont des fortunes qui sont constituées, en gros, dans la mondialisation et dans l'économie numérique. En fait, des gens qui se retrouvent très très bien payés dans une poignée d'entreprises qui profitent de la mondialisation et de la numérisation ou qui innovent. Et donc, en fait, on a aujourd'hui les 1% ou les 0,1% des gens très riches sont des gens, et notamment en France et aux États-Unis, qui, beaucoup plus que dans les années 80, sont des gens qui ont réussi leur carrière, qui ont contribué au développement de l'économie et donc globalement contribué à l'économie de manière générale. Et quand on prend, dernier point, quand on France, on nous parle de rentiers, en fait, on désigne en général, dans le classement de Forbes, je crois, on cite Bernard Arnault en disant que c'est quelqu'un qui est un héritier, il a hérité d'entreprise, si je ne me trompe pas, de son père, qui était de très très loin, pas LVMH. Et donc, vous avez, voilà. Et donc, il y a hérité, on a vu aussi dans le capitalisme français qu'il y a des héritiers qui sont capables de dilapider rapidement une immense fortune. Donc, hériter, c'est aussi être capable de faire croître un groupe. Et donc, en réalité, aujourd'hui, les riches ne sont pas, contrairement à ce qu'on entend dans les publics, les ultra-riches, des rentiers qui foutent rien, sont des gens qui ont innové et qui apportent énormément à l'économie mondiale.
Et puis, quelquefois, un patrimoine peut être très volatile. Vous avez vu que Elon Musk Exactement. A perdu 100 milliards de dollars depuis... depuis le début de l'année, oui, parce qu'une énorme partie de son patrimoine... D'ailleurs, ça m'amène à vous poser la question, parce que on en parlait, c'était jeudi, il y avait notamment Philippe Martin qui était là, il y avait Éric Heyer, il y avait Jacques Delplat, et ils ont soumis l'idée que, à circonstances exceptionnelles, il fallait un impôt exceptionnel sur les plus riches. Ça vous choquerait qu'on vous dise, pendant 12 mois, ou 24 mois, le taux marginal de l'impôt sur le revenu va passer de 45 à 55%.
Moi, ça me...
Pierre-Henri de Menton.
Personnellement, ça me choquerait pas.
Vous vous souvenez quand le FMI, en pleine crise, avait dit qu'il faudrait mobiliser 10% du patrimoine mondial
bien
pour
sûr.
Sortir de cette
chien-lit,
on va dire.
Oui, et il y a une sorte de consensus qui se dégage autour de ça, quand on voit les super-profits, etc. Alors, c'est le projet de taxe sur les super-profits, bon, il est limité à l'industrie pétrolière, mais on voit... la France est extrêmement réticente et Bruno Le Maire justement en particulier. Moi, ça me choquerait pas. Alors, il y a un petit problème quand même sur, mais là, c'est un problème presque ontologique sur. En fait, ces profits, on vient de le dire, ils sont pas faits en France du tout. Très très peu. Les profits d'un LVMH, le marché français ou d'un L'Oréal, donc famille Bettencourt. Alors c'est peut-être différent pour les Dassault par exemple, mais où la famille Pinault, c'est des multinationales vraiment. Alors ponctionner en France un revenu mondial, c'est toujours compliqué. Donc,
mais là on pense au revenu des personnes physiques. Hein.
Non, mais c'est un super ISF. Mais c'est quand même, voilà, il y a quand même un petit problème de voilà. Alors je souscris pas tout à fait quand même à la théorie du ruissellement, mais je pense qu'il y a quand même un moment où il faut rendre. Alors, ces grandes fortunes, sont bien sûr payées des impôts. Elles restent attachées au territoire, quoique elles ont un savoir-faire en matière fiscale qui est pas tout à fait celui des personnes lambda, qui fait que en proportion les montants ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il y a un moment, sans aller jusqu'au giving pledge américain, il faut que les riches, pour rester arrimés à la société, un minimum, rendent une partie de, puisque c'est quand même ces fortunes-là, elles existent parce que la France existe et ils vendent l'image de la France, en tout cas toute l'industrie du luxe par exemple.
Sur l'histoire des super profits, le gouvernement a réussi à éviter le mot taxation et l'arme fiscale pure puisqu'on a utilisé des éléments contractuels correspondant aux rentes dites inframarginales qui imposent aux producteurs d'énergie hors gaz de reverser leurs gains passé un certain prix du mégawattheure. On n'a pas encore eu ce débat là à l'Assemblée sur une taxe exceptionnelle.
Alors il y a un débat incroyable sur à la commission. Vous écoutez la Commission européenne dans le.
Ah mais on en parle.
Dans le budget, c'est 200 millions, je crois, les super profits. Vous écoutez Deloitte ou la Commission européenne. C'est entre 3 et 6 milliards. Donc il y a un petit problème quand même de quelle est la base fiscale de cette taxation sur les super profits. Hein. Il y a visiblement un petit malentendu entre Bruxelles et Bercy.
Alors moi j'ai vu sur l'histoire des gains de la rente inframarginale, on est à 11 milliards d'euros hein, en 2020.
Oui, oui, c'est ça, mais ce n'est pas du tout les chiffres, c'est pas du tout ce qui est prévu dans les recettes fiscales. Hein. Vous regarderez, ça n'a juste rien à voir. Donc il y a un petit sujet là pour vos prochains experts.
D'accord. on a 3 minutes, Erwan Tison. Alors, le Conseil national de la refondation, je ne vais pas vous demander votre avis sur le Conseil national de la refondation, joliment baptisé CNR, bien sûr. Il entame aujourd'hui une réflexion sur le logement. Je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que c'est quand même vraiment un sujet qui est souvent absent du débat public, qui est souvent survolé, et qui est pourtant un sujet central. Et ça a retenu votre attention.
Oui, c'est l'un des trois mots de notre économie française. Hein. Il y a l'éducation, le logement et l'innovation.
Ah, j'avais école, effectivement, et logement. Je ne pensais pas innovation numéro 3.
Innovation, parce que c'est ça qui permet la prospérité à venir. Et malheureusement, aujourd'hui, on reste assez mauvais. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question de structure.
Avant l'innovation, mais l'investissement dans ce cas-là. Parce que...
On peut aussi, mais il n'y a pas que ça, une question normative aussi. Mais on aura l'occasion, ce sera un sujet pour une autre émission.
Logement.
Sur le côté logement, il faut savoir que c'est un des secteurs qui est le plus lucratif pour l'État. Hein. L'État, ça coûte environ 20 milliards de subventions en APL. L'aide à la pierre, etc. L'État récupère à peu près 45 milliards d'euros par an. Donc, c'est 25 milliards d'euros de bénéfices, on va dire, pour l'État. Là aussi, c'est peut-être un super profit. Donc, il faudrait réfléchir à la pertinence.
Ça sera un bon débat, ça.
Et c'est surtout...
L'État doit-il rendre les super profits du logement?
Et c'est surtout un des secteurs qui est le plus dysfonctionnel. Juste deux petits points. Le premier, c'est sur la localisation des biens. On voit effectivement qu'il y a aujourd'hui tout simplement une pénurie de biens là où l'activité se situe. Et il y a une abondance de biens là où il n'y a pas d'activité économique. Deuxièmement, c'est sur le logement social qui, pour moi, est un scandale absolu. Pourquoi? Parce que quand on regarde les critères d'attribution des logements sociaux, on a aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup trop lâche. On a 73% de la population française qui est éligible à un logement social par rapport à son revenu. Et on a 47% des personnes du premier et du deuxième décile, donc concrètement les plus pauvres de ce pays, qui sont obligées de se loger dans le parc privé, là où les prix des logements sont en moyenne 60 à 70% supérieurs dans certaines zones par rapport aux logements sociaux, parce qu'ils n'ont pas de logements sociaux. À l'inverse, vous avez plus de 180 000 personnes qui logent dans des logements sociaux qui gagnent plus de 80 000 euros par an. Mais qui du coup ne peuvent et eux qui pour le coup font partie des premiers déciles. Là, je ne vais pas faire la chasse aux plus riches ou quoi que ce soit. C'est juste de se dire on a un outil qui théoriquement le logement social est absolument extraordinaire d'un point de vue amortisseur social et on l'a complètement dévoyé parce que justement il y a énormément de rentes, parce que on ne veut pas toucher justement à certains critères et qui fait qu'aujourd'hui il est profondément inefficace et profondément injuste pour ces profils-là. Si jamais vous réglez la question du logement. Donc je rappelle, hein, c'est 70% des dépenses contraintes, quel que soit votre niveau de revenu. Seulement, c'est 100% de ces dépenses contraintes, c'est du loyer quand vous êtes dans les premières tranches, et c'est beaucoup de remboursement de prêts quand vous êtes dans les dernières. Vous avez un âge d'accès à la propriété qui a grandi de près de 13 ans en l'espace de 40 ans. Hein, maintenant, c'est 37 ans l'accès à la première propriété. On était à 24 ans. Quand on était dans la génération des boomers, vous savez, ceux qui gagnent aujourd'hui 5% de plus que les actifs, ils avaient l'accès à la propriété beaucoup plus jeune. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, vous êtes propriétaire de plus en plus tard, avec un logement qui est de plus en plus petit. Et donc, du coup, vous avez une part du logement qui est de plus en plus forte dans vos dépenses pilotables et non pilotables. Et donc, du coup, aujourd'hui, le logement reste un fardeau énorme, alors qu'avant, c'était un outil d'émancipation. En plus, il fixe les populations, malheureusement, dans des endroits où ils ne veulent pas. Donc, du coup, on rend les populations tributaires et presque esclaves de leur voiture, et donc du coup des variations du prix de l'énergie, et donc du coup on est obligé de faire derrière des chèques pour compenser ce mécanisme qui à la base est juste un problème de localisation des personnes. Donc du coup j'espère que le CNR réellement fera ces constats-là. Nous on a 1000 propositions, on a 1000 chiffres à leur montrer et à leur donner.
Débat primordial totalement absent des
élections
présidentielles.
On en a parlé ici.
Alors que c'est le sujet de préoccupation numéro 1 des Français.
C'est évident.
Alors non, non, c'est 13e selon les études, mais quand on regarde tous les autres sujets qui sont la mobilité, qui sont le pouvoir d'achat, etc., c'est typiquement lié au logement.
On a fini, on avait dit ici pendant la campagne qu'il y avait quand même deux sujets clés qui devaient absolument être en tête de Gondole, c'était l'école et le logement. J'avais pas mis l'innovation, c'est vrai. Et bon, ben là, le CNR va travailler. Alors, effectivement, j'espère qu'ils vous auront entendu. Peut-être qu'ils vont pouvoir contacter Sapiens pour avoir.
Ah, tout est sur notre site internet en libre accès. Donc,
Mais c'est des sujets qui ne touchent pas les élites.
C'est probable, c'est très probable. Merci en tout cas Erwan Lenoir d'avoir été là. Pierre-Henri de Menton à la une de Challenge. L'affaire EDF, c'est encore en kiosque cette semaine. Et Erwan Tison, rendez-vous demain à 9h.